Aristote, Morale à Nicomaque, livre 2, chapitre 7. Sommaire. Application des généralités qui précèdent au cas particulier. Le courage, milieu entre la témérité et la lâcheté. La tempérance, milieu entre la débauche et l'insensibilité. La libéralité, milieu entre la prodigalité et l'avarice. La magnificence. La grandeur d'âme, milieu entre l'insolence et la bassesse. L'ambition, milieu entre deux excès qui n'ont pas reçu de nom spécial. Lacunes nombreuses que présente le langage pour exprimer toutes ces nuances diverses. La véracité, milieu entre la fanfaronnerie et la dissimulation. La gaieté, milieu entre la bouffonnerie et la rusticité. L'amitié, milieu entre la flatterie et la morosité. La modestie, l'impartialité, l'envie, la malveillance. Paragraphe 1. Il ne suffirait pas sur ce sujet de s'en tenir aux généralités qui précèdent. Il faut en outre faire voir comment ces théories sont d'accord avec les cas particuliers. En effet, quand on raisonne sur les actions humaines, les généralités sont un peu vides et les analyses spéciales sont plus conformes à la vérité puisque les actions sont toujours particulières et que c'est avec elles que les théories doivent s'accorder. On pourra mieux saisir ce que nous voulons dire dans le tableau que nous traçons ici. Paragraphe 2. Ainsi, l'on voit qu'entre les deux sentiments de crainte et d'assurance, le courage tient le milieu. Quant aux deux excès, l'un qui se rapporte à l'absence de toute crainte n'a pas reçu de nom dans notre langue, car il y a beaucoup de choses que l'usage a laissées sans nom. Mais quant à l'excès d'assurance, l'homme qui le montre se nomme téméraire. Celui qui a un excès de crainte ou un défaut d'assurance est un lâche. Paragraphe 3. Pour les plaisirs et pour les peines, non pas pour tous sans exception, mais moins encore pour toutes les peines que pour tous les plaisirs, le milieu c'est la tempérance, l'excès c'est la débauche. Du reste, les gens qui pêchent par défaut en fait de plaisir sont bien rares. Aussi, ne leur a-t-on pas donné de nom spécial. Donnons-leur, si l'on veut, celui d'insensible. Paragraphe 4. En ce qui concerne donner ou recevoir les choses ou les richesses, le milieu, c'est la libéralité. L'excès et le défaut sont la prodigalité et l'avarice. Ces dernières qualités, d'ailleurs, excès ou défaut, se contrarient complètement les unes les autres. Ainsi, le prodigue est en excès pour donner, il est en défaut pour recevoir. L'avare, au contraire, est en excès quand il prend et en défaut quand il donne. Paragraphe 5. On voit du reste que nous ne faisons ici que tracer une simple esquisse et présenter un sommaire. Nous nous contentons pour le moment de ces aperçus. Plus tard, nous traiterons tous ces points avec plus d'exactitude et d'étendue. Paragraphe 6. Mais pour revenir à la richesse, il est encore d'autres dispositions que celles que nous avons indiquées. À cet égard, le milieu peut être aussi la magnificence, car on peut faire une différence entre le magnifique et le libéral. L'un possède de grandes richesses, l'autre n'en a que de petites. L'excès pour le magnifique, c'est le mauvais goût dans la profusion et le faste grossier. Le défaut, c'est la lésinerie dans les petites choses. Ces nuances extrêmes diffère de celles que présente la libéralité. Par où elles diffèrent les unes des autres, c'est ce qu'on dira plus tard. Paragraphe 7. En fait d'honneur ou de gloire et d'obscurité, le milieu, c'est la grandeur d'âme. L'excès en ce genre s'appelle, si l'on veut, l'insolence. Et le défaut, la bassesse d'âme.
Paragraphe 8. Mais de même que nous reconnaissions que la libéralité est dans un certain rapport avec la magnificence, la première différant de la seconde seulement en ce qu'elle s'applique aux choses de peu de valeur, de même, à côté de la grandeur d'âme qui recherche les honneurs quand ils sont considérables, il y a un autre sentiment qui nous pousse à les rechercher, même quand ils sont sans importance. On peut, en effet, désirer les honneurs et la gloire comme il convient. On peut aussi les désirer trop ou trop peu. Celui dont les désirs sont excessifs est appelé ambitieux. Celui qui n'a pas de désir est un homme sans ambition. Mais celui qui, dans cet ordre de sentiments, sait garder un sage milieu, n'a pas reçu de nom spécial. Les dispositions morales qui correspondent à ces caractères n'ont pas non plus de nom particulier, si ce n'est celle de l'ambitieux qui est appelée ambition. C'est là, précisément, ce qui fait que les extrêmes peuvent se disputer la place du milieu. Et nous-mêmes, il nous arrive parfois de qualifier d'ambitieux celui qui se tient au milieu. Et parfois, nous le déclarons au contraire sans ambition. Louant ainsi, tour à tour, l'homme qui est ambitieux et celui qui ne l'est pas. Paragraphe 9. Nous tâcherons d'expliquer dans ce qui va suivre la cause de cette contradiction. Mais pour le moment, nous allons continuer à étudier les autres passions d'après la méthode antérieurement adoptée. Paragraphe 10. On peut distinguer pour la colère, comme nous venons de le faire pour la libéralité, les trois termes excès, défaut, milieu. Mais comme aucune de ces nuances, ou à peu près, n'a de nom spécial, nous nous bornerons à dire que l'homme qui tient en ce genre le milieu entre les deux extrêmes est appelé un homme doux et que la qualité intermédiaire s'appelle la douceur. Des deux caractères extrêmes, celui qui pêche par excès s'appelle le caractère irascible et le vice qu'il présente s'appelle irascibilité. Celui qui pêche par défaut sera, si l'on veut, le caractère flegmatique qui n'a jamais de colère. Et le défaut s'appellera le flegme qui ne sait jamais s'emporter. Paragraphe 11. C'est ici le cas de parler de trois autres milieux qui ne sont pas sans quelque ressemblance entre eux, mais qui diffèrent cependant à certains égards. Tous les trois, ils se rapportent également aux relations sociales et communes qu'établissent entre les hommes leurs paroles et leurs actes. Mais tous les trois diffèrent en ce que l'un concerne la vérité telle qu'elle se présente habituellement dans les entretiens des hommes, tandis que les deux autres milieux concernent le plaisir que donnent les relations de société, l'un des deux se rapportant au plaisir que nous cause la plaisanterie, l'autre s'étendant à toutes les choses de la vie ordinaire. Il nous faut étudier aussi ces trois espèces nouvelles, afin que nous voyions mieux encore qu'en toute chose, c'est le milieu seul qui est digne de louange, tandis que les extrêmes ne sont ni bons ni louables et ne méritent que du blâme. Pour la plupart de ces nuances, comme pour les précédentes, la langue n'a pas de nom particulier. Mais il faut essayer ici, ainsi que nous venons de le faire, de forger des mots nouveaux qui représentent ces caractères divers et qui, en donnant plus de clarté à nos idées, permettent de les suivre plus aisément. Paragraphe 12. Pour ce qui concerne la vérité, l'homme qui garde sous ce rapport le milieu s'appelle un homme vrai ou vérace. et le milieu lui-même s'appelle véracité. La feinte qui altère la vérité se nommera, si elle exagère les choses, fanfaronnerie. Et celui qui aura ce défaut sera un fanfaron. Si au contraire, elle diminue les choses, on l'appellera dissimulation. Et l'homme sera un homme dissimulé. Paragraphe 13. Je passe aux deux autres milieux qui se rapportent au plaisir. L'un consiste dans la plaisanterie. Et l'homme qui sait garder avec mesure ce milieu délicat est un homme gai. La disposition morale qui le distingue est la gaieté. L'excès en ce genre s'appelle bouffonnerie. Et l'homme qui a ce caractère est un bouffon. Celui qui, sous le rapport de la plaisanterie, a moins que ce qu'il faut, est une sorte de rustique, et sa façon d'être peut s'appeler de la rusticité. Paragraphe 14. Quant au milieu qui se rapporte à l'agrément de la vie ordinaire, l'homme qui sait être agréable à ses semblables, comme il convient de l'être, c'est l'ami. Et le milieu qui fait son caractère, c'est l'amitié. Celui qui met quelque excès dans les soins qu'il rend aux autres peut être appelé un homme qui a la manie de plaire, quand il agit ainsi sans aucun intérêt. Mais si c'est à son profit personnel qu'il calcule sa conduite, c'est un flatteur. Celui qui, à cet égard, pêche complètement par défaut et qui ne sait jamais se rendre agréable en quoi que ce soit, est un être morose et difficile à vivre. Paragraphe 15. On peut reconnaître aussi des milieux dans les émotions et dans tout ce qui les concerne. Ainsi, la modestie n'est pas une vertu, et cependant elle est l'objet de nos louanges, ainsi que l'homme modeste. C'est qu'en effet, on peut, dans ses affections, distinguer aussi l'homme qui garde le vrai milieu. Celui qui les ressent avec excès rougit de tout, et il est en quelque sorte frappé d'embarras. L'homme, au contraire, qui pêche en ceci par défaut, ou qui ne rougit de rien absolument, est un homme impudent. Celui qui sait tenir le milieu entre ces deux excès est l'homme modeste. Paragraphe 16. La justice qui applique un jugement impartial à la conduite d'autrui, tient le milieu entre l'envie du bonheur des autres et la joie malveillante que provoque leur souffrance. Ces trois affections, d'ailleurs, se rapportent au plaisir et à la peine que nous peut causer tout ce qui arrive à nos semblables. L'homme impartial et animé d'un juste courroux s'afflige et s'indigne du spectacle d'une prospérité non méritée. L'envieux, qui par excès dépasse cette impartialité, s'afflige de tous les biens qui arrivent aux autres hommes. Enfin, celui qui peut se plaire au mal d'autrui est si loin de s'en affliger qu'il va jusqu'à s'en réjouir. Paragraphe 17. Du reste, on pourra trouver ailleurs l'occasion de parler de ceci plus à propos. Et quant à la justice, comme on ne la désigne pas par un nom simple et absolu, mais qu'on y distingue deux nuances différentes, nous les analyserons plus tard. Et pour chacune, nous montrerons comment elles ont des milieux. Nous ferons la même étude des vertus intellectuelles. Chapitre 8. Sommaire. Opposition des vices extrêmes entre eux et à la vertu qui tient le milieu. Opposition du milieu aux deux extrêmes. Les extrêmes sont plus éloignés l'un de l'autre qu'ils ne le sont du milieu qui les sépare. Dans certains cas, un des extrêmes se rapproche davantage du milieu, tantôt l'extrême par excès et tantôt l'extrême par défaut. La témérité est plus près du courage que la lâcheté. Au contraire, l'insensibilité est plus près de la tempérance que la débauche. Deux causes de ces différences, l'une venant des choses et l'autre de nous. Paragraphe 1. Ces trois dispositions morales, parmi lesquelles sont deux vices, l'un par excès, l'autre par défaut, et une seule vertu qui tient le milieu entre les extrêmes, sont toutes, sous un certain point de vue, opposées les unes aux autres. D'abord, les extrêmes sont opposés au milieu, et ils le sont entre eux également. Puis, le milieu est opposé aux deux extrêmes. Paragraphe 2. De même que l'égal, comparé avec le terme plus petit et plus grand que ce terme, est moindre que le terme plus grand dans son rapport avec lui, de même, les qualités et dispositions moyennes, dans leur rapport avec les dispositions par défaut, paraissent des excès. Et au contraire, dans leur rapport avec les dispositions par excès, elles deviennent elles-mêmes en quelque sorte des défauts dans les passions aussi bien que dans les actes. Ainsi, l'homme courageux paraît téméraire si on le compare au lâche, et il semble lâche à côté du téméraire. De même encore, l'homme tempérant paraît un débauché si on le compare à l'insensible, que rien n'émeut, et il semble lui-même insensible par rapport au débauché. Le libéral paraît prodigue relativement à l'avare, et avare relativement au prodigue. Paragraphe 3. Aussi, les extrêmes ne se font-ils pas faute de se rejeter le milieu de l'un à l'autre? Le lâche appelle l'homme de courage un téméraire, et le téméraire l'appelle un lâche. De même pour tout le reste. Paragraphe 4. Ces trois termes étant ainsi opposés les uns aux autres, l'opposition des extrêmes entre eux est plus considérable que ne l'est leur opposition avec le milieu, parce qu'en effet, les extrêmes sont plus éloignés l'un de l'autre qu'ils ne le sont du milieu qui les sépare, absolument comme le grand terme est plus éloigné du plus petit et le petit du grand, que tous les deux ne le sont de l'égal. Paragraphe 5. À un autre point de vue, il est des extrêmes qui ont quelque ressemblance avec le milieu. Ainsi, la témérité n'est pas sans ressembler au courage et la prodigalité à la libéralité. Mais la dissemblance la plus grande est naturellement des extrêmes les uns relativement aux autres. Les choses qui sont entre elles le plus éloignées possible sont appelées des contraires, et elles sont d'autant plus contraires qu'elles sont aussi plus éloignées. Paragraphe 6. Dans leur rapport avec le milieu, c'est tantôt le défaut qui est le plus opposé, tantôt c'est l'excès. Ainsi, le vice le plus opposé au courage, ce n'est pas la témérité laquelle est un excès, c'est la lâcheté qui pêche par défaut. Au contraire, pour la tempérance, le terme qui s'en éloigne le plus, ce n'est pas l'insensibilité qui pêche par défaut, c'est la débauche qui pêche par excès. Paragraphe 7. Ceci tient à deux causes distinctes. L'une ressort de la nature de la chose même. Du moment que l'un des extrêmes est plus rapproché du milieu et lui ressemble davantage, ce n'est plus celui-là que nous opposons au milieu. C'est plutôt le terme contraire. Ainsi, par exemple, comme l'audace paraît être plus voisine du courage et lui ressembler davantage, tandis que la lâcheté, lui est bien plus dissemblable, c'est la lâcheté que nous opposons plus particulièrement au courage. Les choses qui sont les plus éloignées du milieu paraissant davantage en être les contraires. Paragraphe 8. Voilà donc l'une des causes signalées plus haut, et elle vient de la nature même de la chose. Voici la seconde qui ne vient que de nous. les choses vers lesquelles nous sommes naturellement portés davantage nous semblent plus contraires au sage milieu qu'il conviendrait de conserver. Ainsi, notre nature nous porte plus vivement vers les plaisirs, et c'est ce qui fait que nous sommes enclins plus facilement à l'intempérance qu'à la réserve et à la sobriété. Par suite, nous trouvons plus contraire au juste milieu les choses pour lesquelles nous sentons en nous le plus d'abandon. Et voilà comment la débauche, qui est un excès, est plus contraire à la tempérance que la complète insensibilité. Chapitre 9. Sommaire. Difficulté d'être vertueux. Conseil pratique pour atteindre le milieu dans lequel consiste la vertu. Étudier les penchants naturels qu'on sent en soi et se rejeter vers l'extrême contraire. Moyen de les reconnaître. Nécessité de résister au plaisir. Insuffisance des conseils, quelque précis qu'ils soient. Il faut s'exercer constamment à la pratique. Paragraphe 1. Ainsi donc, on a vu que la vertu morale est un milieu, et l'on sait comment elle l'est, c'est-à-dire qu'elle est un milieu entre deux vices, l'un par excès, l'autre par défaut. On a vu, en outre, que ce caractère de la vertu vient de ce qu'elle recherche sans cesse ce sage milieu dans tout ce qui tient aux passions et aux actes de l'homme. Ce sont là des points qui nous semble suffisamment éclairci. Paragraphe 2. Nous devons comprendre encore par là pourquoi il faut se donner tant de peine pour être vertueux. En toute chose, saisir le vrai milieu est fort difficile, de même que découvrir le centre d'un cercle n'est pas donné à tout le monde, et que pour le trouver sûrement, il faut savoir résoudre ce problème. C'est ainsi que se livrer à la colère est à la portée de tout le monde, et c'est chose facile, tout aussi bien que de répandre de l'argent et de faire de la dépense. Mais savoir à qui il convient de le donner, dans quelle mesure, dans quel moment, pour quelle cause, de quelle façon, c'est là un mérite qui n'appartient pas à tout le monde, et qu'il n'est pas facile d'avoir. Et voilà pourquoi le bien est tout à la fois une chose rare, louable et belle. Paragraphe 3. Le premier soin de celui qui veut atteindre ce sage milieu, c'est de s'éloigner du vice qui est le plus contraire. Et l'on peut appliquer ici le conseil de Calypso. Bien loin de ces écueils et de cette fumée, dirige ton vaisseau. Car des deux extrêmes, l'un est toujours plus coupable et l'autre l'est un peu moins. Paragraphe 4. Comme il est fort difficile de trouver ce désirable milieu, il faut, ainsi qu'on dit, changer de manœuvre et parmi les mots prendre le moindre. Le vrai moyen d'y réussir sera la manière que nous avons indiquée. Ainsi, nous devrons nous bien rendre compte des penchants qui sont les plus naturels en nous, car la nature nous en donne de très divers, et ce qui nous le fera facilement reconnaître, ce seront les émotions de plaisir ou de peine que nous ressentirons. Paragraphe 5. Il faudra nous faire pencher nous-mêmes en sens contraire, car en nous éloignant de toutes nos forces de la faute que nous redoutons, nous nous arrêtons dans le milieu, à peu près comme on fait quand on cherche à redresser un morceau de bois tordu. Paragraphe 6. Un danger dont il faut toujours se garder avec la plus grande attention, c'est ce qui nous plaît, c'est le plaisir, car nous ne sommes jamais dans ce cas des juges bien incorruptibles. Et les sentiments qu'éprouvaient les vieillards de Troie en présence d'Hélène doivent être aussi les nôtres en face du plaisir. Sachons, en toutes circonstances, nous répéter leur langage. Car, si nous parvenons à repousser le plaisir, nous sommes assurés de commettre bien moins de faux pas. Paragraphe 7. Pour résumer notre pensée en quelques mots, nous dirons que c'est surtout par cette conduite que nous réussirons à trouver le vrai milieu. Certes, c'est un point difficile, et il l'est surtout dans la pratique ordinaire des choses. Par exemple, c'est une œuvre qui n'est pas aisée que de déterminer avec précision, à l'avance, comment, contre qui, pour quel motif, pour combien de temps, il convient de se mettre en colère. Car, tantôt, nous devons louer ceux qui restent en deçà et s'abstiennent, et nous disons qu'ils sont pleins de douceur. Tantôt, nous ne louons pas moins ceux qui s'emportent, et nous leur trouvons une mâle fermeté. Paragraphe 8. Il est vrai que celui qui ne dévie que très peu du bien ne s'expose pas à être blâmé, soit qu'il s'en écarte en plus, soit qu'il s'en écarte en moins. Tandis que celui qui s'en éloigne davantage ne peut échapper à la critique pour une faute que chacun aperçoit. Mais déterminer dans un langage parfaitement précis jusqu'à quel point et dans quelle mesure on est blâmable, ce n'est pas facile, parce qu'il n'est pas facile non plus de préciser aucune des choses qu'il faut sentir pour les bien comprendre. Or, tous ces cas sont des cas particuliers, et le jugement ne peut relever que du sentiment que chacun en éprouve. Paragraphe 9. Quoi qu'il en soit, il est suffisamment clair que la qualité moyenne est toujours la seule louable, et que pour nous redresser, il nous faut pencher tantôt vers l'excès, tantôt vers le côté du défaut, car c'est ainsi que nous atteindrons le plus aisément le milieu et le bien. Fin du livre deuxième.